Saint-Esprit, lumière de vérité. Amis pèlerins, nous approchons du lieu-dit Les Courlis, où aura lieu la grand-messe de la Pentecôte. Dans l'Évangile, nous entendrons ces paroles de notre Seigneur. L'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit-Saint est en effet, selon l'Évangile de saint Jean, l'esprit de vérité. Et les textes de la liturgie utilisent souvent le vocabulaire de la lumière pour décrire son action dans nos âmes. Ainsi, l'oraison de la Pentecôte commence par ces mots « Dieu qui avait instruit en ce jour les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit », l'Esprit-Saint éclaire l'intelligence. Il lui fait saisir la vérité. Et cela est fondamental pour le missionnaire. Nous allons voir que le rôle premier du missionnaire est d'annoncer, sans compromission, la vérité, celle de la bonne nouvelle de l'Évangile, celle du Christ. Nous verrons ensuite que cette vérité est crédible et que le missionnaire doit être capable de montrer qu'il est raisonnable de croire. Enfin, nous verrons que la foi, loin d'être une croyance fragile ou une perpétuelle remise en question, est une certitude solide et ferme. L'annonce de la foi est une annonce de la vérité. Ici, au pèlerinage, comme partout en France, nous sommes témoins de multiples conversions. Et c'est une grande joie de voir le nombre des catéchumènes, des baptêmes, des néophytes qui rejoignent l'Église. Comme l'écrivait Mgr Léonard, face à l'anonymat et à la froideur du monde athée où nous vivons, beaucoup d'hommes et de femmes se tournent de nouveau et à juste titre vers la foi chrétienne pour y trouver un lieu d'épanouissement personnel et un foyer humain chaleureux. Mais il continuait mettant en garde contre le risque de trop attendre du seul sentiment et d'oublier que la foi, s'adressant à tout homme, s'adresse aussi à l'intelligence humaine. Que signifie croire? Que signifie avoir la foi? Certes, la foi est d'abord l'adhésion à une personne, à Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu. Mais elle est en même temps et inséparablement l'adhésion de l'intelligence à toute la vérité que le Christ nous a révélée. C'est ce qu'affirme le texte de l'acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Pourquoi insister sur la place de la vérité dans la foi? Parce que pour aimer, il faut connaître. Pour aimer Dieu, il faut le connaître, et pour faire aimer Dieu, il faut le faire connaître. Écoutons saint Paul. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment l'invoquer sans d'abord croire en lui? Et comment croire sans d'abord l'entendre? Et comment entendre sans prédicateur? La foi naît de la prédication, et la prédication se fait par la parole du Christ. Oui, il n'y a pas d'amour ni de salut sans vérité. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi le missionnaire ne peut se contenter uniquement de l'exemplarité de vie, qu'on appelle le témoignage de charité. C'est certes une dimension essentielle de la mission, mais elle est au service de l'annonce explicite de Jésus-Christ et de sa doctrine, ce qu'on appelle le témoignage de la vérité. C'est pourquoi l'apôtre exhorte son disciple Timothée : « Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son règne, proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, exhorte, avec une patience inlassable et le souci d'instruire. » Non, comme les apôtres, nous ne pouvons pas nous taire. Bossuet disait « La vérité est un bien commun. Quiconque la possède, la doit à ses frères, selon les occasions que Dieu lui présente. » Laisser quelqu'un dans l'ignorance ou dans l'erreur, par délicatesse, pour ne pas le froisser, pour respecter sa liberté, c'est manquer cruellement de charité. Car seule la vérité vous rendra libre. Cette vérité qu'annonce le missionnaire est crédible. L'importance de l'apologétique. Être missionnaire consiste donc à annoncer l'évangile du Christ. Mais pour cela, il faut être capable de disposer les intelligences à le recevoir, en montrant que l'évangile du Christ peut être cru et qu'il est crédible. Avoir la foi, ce n'est pas débrancher son cerveau en refusant de réfléchir. Comme l'écrit Monseigneur Léonard, même si la foi dépasse la raison, elle n'est pas sans raison. Ce sont ces raisons de croire qu'il faut connaître. Et c'est le rôle de l'apologétique, qui veut dire justification ou défense en grec, de montrer qu'il est raisonnable de croire. On ne croirait pas, nous dit saint Thomas d'Aquin, si l'on ne voyait pas qu'il y a des choses qui méritent d'être crues. Saint Pierre ne nous dit pas autre chose. Soyez toujours prêts à répondre, mais avec douceur et respect, à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Par ces mots, l'apôtre demande à tout chrétien d'être capable de défendre et de justifier sa foi devant les interrogations légitimes des hommes. Pour saint Thomas d'Aquin, cela vient d'une idée très simple. Dieu est la source de l'intelligence humaine et la source de la foi. Donc, même s'il est vrai que la foi dépasse ce que peut comprendre l'intelligence, la foi ne sera jamais contradictoire avec l'intelligence humaine. Il y a une belle harmonie entre foi et la raison, car Dieu, auteur de la raison et de la foi, est cohérent avec lui-même. Et même si l'intelligence humaine ne peut parvenir par elle-même à se hisser jusqu'à la foi, car la foi est un don surnaturel, elle peut découvrir par elle-même qu'il serait très intelligent de croire, qu'il est raisonnable de s'ouvrir au don de la foi. Quels arguments mettre en avant? Comme par un travail de l'intelligence, peut-on parvenir à montrer que la révélation est crédible? Cela passe par plusieurs chemins, et c'est tout le but de l'apologétique. D'abord, la raison est capable de prouver par elle-même certaines vérités qui sont les bases de la foi, qu'on appelle les préambulia fidei. Par exemple, on peut atteindre avec certitude l'existence de Dieu ou l'immortalité de l'âme. Même un philosophe non-croyant, s'il est honnête, peut y parvenir avec certitude. Il est important d'avoir travaillé ces démonstrations avec, par exemple, avec les cinq voies de l'existence de Dieu chez saint Thomas d'Aquin. Ensuite, on peut montrer par des arguments historiques accessibles à tous que Jésus-Christ a réellement existé et que les évangiles sont des sources historiques fiables et que ce qu'ils contiennent n'a pas pu être inventé ou falsifié. Ensuite, on peut s'intéresser au contenu des évangiles. Une chose est certaine, c'est que Jésus-Christ a vraiment dit qu'il était le Messie annoncé par les prophètes, qu'il a vraiment enseigné une doctrine nouvelle, qu'il a vraiment dit qu'il était Dieu. Deux solutions. Soit il dit vrai, soit c'est un menteur ou un fou. Or, si on regarde la grande sainteté de sa vie, la sagesse incroyable de son message, les miracles et les prophéties qu'il accomplit pour confirmer sa parole, la façon dont il réalise les prophéties anciennes, si on regarde comment l'Évangile s'est propagé dans toute la terre, les fruits de sainteté de son message tout au long de l'histoire, la conclusion est sans appel. Jésus-Christ est crédible. Il mérite que je lui fasse confiance, que j'adhère à son message. L'argument le plus précieux, le signe suprême, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Le tombeau vide, alors qu'il était gardé, la façon dont sont écrits les récits, l'incrédulité des apôtres au début, puis leur changement soudain d'attitude, et les témoignages multiples, la conversion inattendue de saint Paul sur le chemin de Damas. Tout converge vers une seule conclusion. La résurrection du Christ est un événement historique certain. Ajoutez à cela les premiers martyrs qui donnent leur vie pour témoigner de ce qu'ils disent avoir vu, de leurs propres yeux, le Christ ressuscité. Je ne crois que les histoires dont les témoins se feraient égorger, disait Pascal. Oui, croire en Jésus-Christ n'est pas une folie, c'est même l'option la plus raisonnable. Tout ce travail de l'apologétique est très traditionnel, mais il faut savoir qu'il a été fortement attaqué au XXe siècle par des courants modernes qui lui reprochaient de rationaliser la foi. Par exemple, ça ne sert à rien de prouver l'existence de Dieu ou l'existence de Jésus. On y croit, c'est tout. Ce mépris de l'apologétique a eu une influence considérable dans la crise de la transmission de la foi ces dernières décennies. Fort heureusement, on voit aujourd'hui renaître un vrai intérêt pour l'apologétique, surtout dans les mouvements d'évangélisation. En effet, quel meilleur chemin utiliser pour défendre et présenter le christianisme que de parler à l'intelligence de son interlocuteur? Pour approfondir ces questions, vous trouverez en fin de livret des bons conseils de livres d'apologétique récents, et à la fin du pèlerinage sera distribué gratuitement à ceux qui le veulent le petit livre « Soyez rationnel, devenez catholique » de Mathieu Lavagna, qui explique tout cela très bien. L'apologétique prépare à la foi, mais elle ne la démontre pas. Attention cependant, par la raison, on peut affirmer en vérité, le message de Jésus est crédible. Mais pour croire véritablement, il y a un saut à faire. Et ce saut demande la grâce de Dieu, poussant ma volonté à définitivement croire. Alors, on atteint véritablement la foi théologale. Comprenez bien ce que cela signifie. Ce n'est pas parce qu'on a découvert que le christianisme est crédible qu'on a la foi. La foi n'est pas la conclusion logique de la démarche apologétique. Elle est un don de Dieu, fait dans une âme préparée à la recevoir. Notre foi ne s'appuie pas exclusivement sur des arguments rationnels. Elle est fondée sur Dieu qui, en nous, atteste qu'il est la vérité. C'est une grâce immense, et c'est pourquoi la foi atteint une certitude si grande en nous, une certitude surnaturelle. La lumière de la foi procure une grande certitude. Si je vous dis « je crois que la prochaine halte est dans 5 minutes », vous allez me dire agacé « tu crois ? ou tu es sûr? En effet, dans le langage courant, quand on dit « je crois », cela signifie souvent que l'on n'a pas de certitude. Mais il en va tout autrement pour la foi. Nous l'avons dit dans l'acte de foi. « Mon Dieu, je crois fermement. » Quand le croyant dit « je crois en la Sainte Trinité », ce n'est pas une vague croyance incertaine. Il le dit avec une certitude absolue. Seulement, cette certitude ne vient pas du fait qu'il aurait vu la Trinité. Il n'a pas l'évidence de videre, voir en latin, ou bien parce qu'il aurait compris comme un seul Dieu peut être en trois personnes, par une démonstration impeccable qu'aurait fait son intelligence. Non, sa certitude vient du don de la foi, don de Dieu qui lui révèle la Trinité. Don de Dieu qui lui révèle la Trinité. Le catéchisme de l'Église catholique l'affirme très clairement. La foi est certaine, plus certaine que toute connaissance humaine, parce qu'elle se fonde sur la parole même de Dieu, qui ne peut pas mentir. Certes, les vérités révélées peuvent paraître obscures à la raison et à l'expérience humaine, mais la certitude que donne la lumière divine est plus grande que celle que donne la lumière de la raison naturelle, et comme une lumière dans la nuit. De même que l'aveugle est guidé dans la nuit par quelqu'un à qui il fait confiance, de même, le fidèle fait confiance à Dieu lorsqu'il fait un acte de foi, et la force de la foi est à la mesure de la confiance qu'il a en Dieu, en sa véracité. C'est pourquoi elle est si certaine, plus certaine même que toutes les certitudes humaines. Mais de même que le guide ne rend pas la vue à l'aveugle, de même la foi ne nous donne pas la claire vision. La nuit demeure, elle est la condition normale de l'exercice de la foi tant que nous sommes sur la terre. Elle rend parfois difficile l'exercice et la conservation de la foi. Oui, il y a des choses difficiles à croire dans le christianisme. Le mystère de la Trinité, mais aussi le mystère du mal, l'enfer, etc. Mais le catholique prend tout, non parce qu'il comprend tout, mais parce qu'il a une confiance absolue en Dieu qui lui enseigne ses vérités. Un catholique qui dit « je prends cette vérité, mais j'en refuse une autre », qui fait son marché dans les vérités de l'Évangile, perd complètement la foi théologale. Car en refusant même la plus petite des vérités révélées, on se coupe de la source, on refuse de faire confiance en Dieu qui révèle. C'est le sens du mot hérétique, de « hérétikos », celui qui choisit. Alors, luttons contre la tentation moderne de considérer la foi comme une perpétuelle remise en doute, une remise en question, un cheminement incertain. Dieu témoigne en moi qu'il est la vérité. C'est du solide. Et soyons certains qu'en suivant fidèlement le Christ et l'Église catholique, nous adhérons à la vérité pleine et entière. Certes, il y a des difficultés dans la foi, en raison de la nuit. Mais ce ne sont pas des doutes. Les doutes, s'ils arrivent, sont à combattre, car ils peuvent mettre en danger la foi. Ils se combattent par l'étude, la formation, la prière. « Seigneur, je crois, mais venez en secours à mon incrédulité. » Et comme le disait le cardinal Newman, « 1000 difficultés ne font pas un doute. 1000 difficultés ne font pas un doute. » Venez, ô Saint-Esprit, et envoyez du ciel un rayon de votre lumière. Ô lumière bienheureuse, inondez jusqu'au plus intime le cœur de vos fidèles.